On se retrouve pour un nouveau rendez-vous des experts et j'ai le plaisir d'être avec Jean Gauchemin et Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau qui est une vedette dans notre pays. C'est elle qui avait lancé les Gilets jaunes et elle publie son livre qui s'appelle Jacqueline qui répond à Éric Zemmour. Et puis je suis avec le guérandais Jean Gauchemin. Jean, un sujet.
Est-ce que vous avez... Écoutez, je voulais vous parler un petit peu de la... de l'article 49.3 et de ses conséquences éventuelles. Jeudi dernier, le gouvernement a décidé d'utiliser l'article 49.3, alinéa 3, ce qui est parfaitement conforme à la Constitution, en pensant qu'il n'aurait pas de majorité parlementaire suffisante pour adopter un texte à laquelle, auquel apparemment il tient beaucoup. Je ne vais pas juger de la validité ou non de ce texte, je vais simplement essayer de voir maintenant que peut-il se passer. Et je ne vois en fait que trois possibilités. En l'état actuel, le gouvernement peut toujours retirer son texte. Enfin, le président de la République peut très bien décider qu'il retire son texte. Il y a eu des précédents, notamment Jacques Chirac avec le contrat de nouvelle embauche, Mitterrand avec les problèmes liés à la modification de la loi sur l'école privée. Bon, tout le monde, enfin, pour les plus anciens, dont je fais malheureusement partie, ils se souviennent tous de ça. Donc, c'est une possibilité à laquelle, très honnêtement, je ne crois pas beaucoup. La deuxième possibilité, c'est que la motion de censure qui est maintenant corrélée à l'emploi de l'article 49.3, puisque la Constitution l'autorise, c'est donc la question, c'est faites-vous confiance au gouvernement ou non, après que le gouvernement ait décidé d'utiliser l'article 49.3, eh bien, nous verrons bien, soit cette motion de censure sera adoptée, auquel cas le gouvernement sera désavoué, et donc, tout à fait logiquement, le gouvernement dans son ensemble devra démissionner. Du moins, c'est la façon d'interpréter la Constitution à ce sujet-là. Bon, si le gouvernement démissionne, on peut penser que... il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale qui, parce qu'il faudra bien repartir sur d'autres bases. Si il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, il y aura des élections législatives. Alors évidemment, quel gouvernement et surtout quelle influence serait sur un éventuel gouvernement ensuite? Bon, apparemment, et dans la Constitution, rien ne dicte au président de la République qu'il doit choisir comme Premier ministre avec lequel et lequel formera ensuite son gouvernement. Bon, dans la réalité, aujourd'hui, de ce qu'on a pu voir de cas à peu près similaires sur le plan d'une absence de majorité parlementaire, ça a été en 1986... où les socialistes qui avaient une majorité jusqu'en mars 86 l'ont perdu au profit d'un parti qui était le Rassemblement pour la République. Donc d'une manière, je dirais, assez logique, Mitterrand a décidé à ce moment-là d'appeler Jacques Chirac à Matignon, et il y a eu ce qu'on a appelé un gouvernement de cohabitation. Bon. En 93, ça s'est passé à peu près de la même façon. Là, c'est Édouard Balladur qui est allé parce que Jacques Chirac avait refusé. Il avait apparemment épuisé les joies du poste. Bon, aujourd'hui, comme il n'y a pas de parti réellement majoritaire, et quand je parle de parti, c'est vraiment des partis politiques et pas des intergroupes, comme on appelle, c'est-à-dire plusieurs partis qui
comme
se mettent
NUPES,
sur le... Comme le NUPES. Comme le NUPES, voilà, absolument.
Ou Liotte, qui est un intergroupe.
Donc, on peut penser que c'est le parti qui aurait le plus de députés élus, mais en tant que parti, qui, donc, se verrait appelé, au niveau probablement de son responsable, à aller à Matignon.
Donc, on retrouve la majorité.
On
Est-ce que c'est Renaissance qui a le plus de députés?
Alors, non, je ne pense pas que ça soit Renaissance. Renaissance est lui-même, il faudrait vérifier les chiffres, mais je crois que c'est aussi un parti intergroupe. Alors, mais si c'est Renaissance, à mon avis, ça posera les mêmes problèmes, donc ça sera un coup pour rien, parce qu'on repartira exactement la même solution. Et là, je pense qu'on ira vers des ennuis beaucoup plus... Enfin, finalement... on aura une espèce de situation de statu quo et elle sera très difficile à gérer. Bon. Maintenant, la solution, si la dernière possibilité, c'est la motion de censure ne réunit pas une majorité de députés, et donc elle est rejetée, et la loi est automatiquement promulguée, compte tenu justement de l'article 49.3. Et ça, c'est peut-être, à mon avis, le cas le plus incertain et le plus dangereux, où là, je ne vois pas comment on pourrait empêcher une révolte populaire.
Mais de toute
question
façon,
à Jacqueline, justement.
Dans les deux cas, pour moi, le gouvernement a perdu. Dans les deux cas, si la motion de censure ne passe pas, la loi est promulguée, on a le feu dans la rue. Si la motion passe, mais à mon avis, elle ne passera pas, parce qu'il manque trop de voix. Il manque trop de voix et y a, les députés ont peur, en fait, hein, puisque tout est, y a rien d'anonyme. De toute façon, dans les deux cas, il y a le feu dans la rue, pour moi.
Mais non, si la motion ne passe pas, il n'y a plus de loi. Ça va se calmer.
Mais non, ça ne va pas se calmer. Non, ça ne va pas se calmer comme ça. Vous savez, quand le dentifrice est sorti du tube, c'est difficile de le remettre dedans.
Je ne la connaissais pas, celle-là.
Parce que il faut voir que
c'est pas faux.
La révolte, parce que là, on est quand même dans un climat de révolte. La révolte, elle est évidemment sur le 49.3, puisqu'on voit spontanément les gens aller dans la rue. Mais il y a cette révolte comprend aussi la haine que certains Français ont à l'égard d'Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier...
comprendre d'autres sujets. Les conséquences de la loi climat, les zones ZFE, l'interdiction de circuler, les prunes...
Tout est dedans. Et il ne faut pas oublier...
Et là, ça a pété. Voilà. C'est le dentifrice qui est sorti.
Exactement. Et il ne faut pas oublier... Parce qu'Emmanuel Macron, il applique la stratégie du saucisson. C'est une tranche à la fois. Mais à chaque fois, c'est... On en prend plein la tête à chaque fois et on se sent totalement démuni et tout le monde se dit « mais c'est pas possible, ça va péter ». Donc il est là le moment où ça va péter.
Et derrière, il y a eu les confinements.
Les gens qui ont...
Castaner qui nous disait « faut l'autorisation ».
On s'est signé des autorisations de sortie à nous-mêmes quand même, il faut le faire.
C'est le chien.
Oui, mais bien sûr, mais tout ça a été insupportable. Et donc aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la rue
comme
pour ça.
Comme un traumatisme psychologique, c'est
exactement,
ça.
Hein, exactement. Et c'est pour ça que moi, je crois que dans les deux cas, de toute façon, les révoltes dans la rue ne vont pas s'arrêter.
Oui. Voilà, donc pour ce sujet évoqué par Jean Gauchemann et le pronostic, donc les révoltes ne vont pas s'arrêter. Jean, c'est partagé, les révoltes ne vont pas s'arrêter.
Je pense que... La seule chose qui pourrait aujourd'hui arrêter ça, ça serait effectivement une abrogation pure et simple de la loi sur les retraites.
Oui, mais elle n'est pas d'accord.
De toute façon, Macron ne le fera pas. Il ne le fera pas. Ça serait avouer qu'il a eu tort.
Même vis-à-vis de Bruxelles, c'est ce que vous voulez dire.
Ah bah oui. Mais oui, de toute façon, c'était dans le PNR 2022. C'est Bruxelles qui a demandé ça. Donc, il est obligé d'obéir. Mais puis, Macron...
Mais pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aussi? Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas clairement aux Français, que ce soit Jacques Attali qui le dise aussi?
Ah ben oui, mais parce qu'ils ne veulent pas
avouer. On est tenus par Bruxelles.
Et c'est là qu'on voit, mais évidemment
qu'il
y a la responsabilité de l'Europe là-dedans. On ne veut pas remettre...
Est tenu parce qu'on a distribué de l'argent à gogo pendant le confinement?
Évidemment.
La crise sanitaire.
Bien sûr.
Les taux d'intérêt, maintenant il y a l'inflation, les taux étaient à 1, ça peut monter à 3%, et donc on
n'a
plus d'argent.
Bien sûr, mais il faut quand même, moi je pense qu'il va falloir à un moment parler du dossier Europe. Moi je ne suis pas anti-européenne, mais l'Europe qu'on nous sert là, je n'en veux pas. Je n'y adhère plus en fait. Enfin, je ne sais même pas si j'y ai adhéré, puisque j'avais voté non déjà. Mais là, aujourd'hui, plus personne n'adhère à ce truc-là.
Craignez-vous qu'on se retrouve dans la situation de la Grèce avec la Troïka qui vient et qui gouverne à la place du gouvernement?
Ah bah c'est parti. Il y a déjà eu une note assez salée envoyée par le FMI, justement, au ministère des Finances français. Où ils attirent l'attention donc des gouvernants français sur le fait que justement on est dans une zone de déficit qui devient de déficit, donc qui nécessite à chaque fois des emprunts de plus en plus importants pour arriver à boucler le budget, et que là on dépasse tous les critères généralement admis. Et donc maintenant, il faut rentrer dans une période d'économie très importante. C'était la demande du FMI d'il y a à peu près une quinzaine de jours.
Merci pour ce sujet passionnant, cher Jean Gauchemann. On a parlé du 49.3 et de ses conséquences éventuelles. Et dans le studio, j'ai le plaisir d'être avec Jean Gauchemann et puis Jacqueline Moreau. J'en profite, cher Jacqueline, puisque vous sortez un livre pour faire de la pub. Ça s'appelle Jacqueline qui et on le trouve partout. Je vous ai dit, sur bouquin, c'est passionnant parce que ça nous emmène dans le cœur de la campagne d'Éric Zemmour. Ce que pense aussi, on comprend l'entourage d'Éric Zemmour, le fait que la France du peuple, qu'elle n'est pas considérée. Voilà.
Bah de toute façon, c'était ça, hein, le début de la révolte des Gilets jaunes, c'est ça, le manque de considération.
Merci Jacqueline Moreau et Jean Gauchemann.